Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
h 42 sur France Culture. On va parler de comédie musicale et d'icônes du 7e art en compagnie d'une journaliste, Emmanuelle Guichet. Vous publiez Simone et Brigitte, deux icônes à la française aux éditions Larousse. Et puis Ntebine, bonjour. Vous êtes commissaire d'une exposition consacrée aux comédies musicales à la Philharmonie de Paris. Et puis j'ai le catalogue de cette exposition. Il est publié aux éditions de La Martinière. Ça s'intitule Comédie musicale, la joie de vivre du cinéma. Qu'entend-on en ce moment ?
Eh bien, on entend Al Jolson dans le film Le chanteur de jazz, qui est considéré dans toutes les histoires du cinéma comme le premier film parlant, mais qui est très peu parlant finalement, et qui est surtout un film muet. Et puis de temps en temps, il y a Al Jolson qui est face au public, c'est-à-dire nous, et qui chante.
Qu'est-ce qu'il raconte ce film ?
Il raconte l'histoire d'un jeune homme qui, dont le père est rabbin, et cantor dans une synagogue, et plutôt que de continuer sur les pas de son père, il veut monter sur les planches, aller à Broadway, et il va y arriver en chantant. Et Al Jolson, c'était une très très grande star de l'époque. L'idée de faire un film parlant et chantant autour de lui, c'est de permettre à des millions d'Américains de le voir comme s'il était sur la scène devant eux. Donc c'est filmé d'une façon assez statique, en pied, très souvent avec peu de gros plans. Je parle des séquences musicales, et tout d'un coup, on se rend compte que, eh bien, le cinéma est en train de vivre une vraie révolution. Et en même temps, ce dont on ne se rend pas compte complètement, c'est que cette révolution est aussi la naissance d'un genre. C'est la comédie musicale, ce que les Américains appellent le musical.
Et alors justement, c'est cela en fait qui devrait nous interroger, parce que aujourd'hui, les comédies musicales, elles nous sont extrêmement familières. Ntebine, on les voit sans même se poser de questions. Finalement, c'est un genre assez compliqué. Comment a-t-on eu l'idée de créer ce qu'on appelle des comédies musicales, qui ne sont pas donc des films où l'on chante, qui ne sont pas des films où l'on se contente de danser?
L'idée, je pense que les producteurs se sont pas dit, tiens, on va créer un nouveau genre. Ce qu'ils se sont dit, c'est comment est-ce qu'on va gérer le passage du cinéma muet au cinéma parlant. C'est d'ailleurs raconté dans deux films très célèbres, d'une part Chantons sous la pluie, l'une des plus célèbres comédies musicales, et l'argument a été repris dans le film The Artist. Pour passer de l'un à l'autre, eh bien, on va importer de la scène des gens qui savent, enfin des interprètes, qui savent éventuellement parler, chanter à l'écran.
Alors, on va continuer à se faire plaisir en écoutant des comédies musicales et en écoutant, bien entendu, peut-être la comédie musicale la plus célèbre de France, Les Demoiselles de Rochefort, un extrait.
Ça me fait vraiment plaisir de te voir.
Ouais.
J'aime bien beaucoup ce que tu fais.
Ah, si.
Ouais. Quelle réussite. C'est prodigieux. Mais dans le fond, ça ne me surprend pas. Déjà, au conservatoire, c'était évident. Tu savais ce que tu voulais, quoi, et tu l'as eu.
C'est vrai.
Adolescent, je rêvais de conquérir le monde. Je n'étais amoureux que de croches ou de rondes. Combien de fois le corps d'un piano m'a ravi. Pour un foutissimo, j'aurais donné ma vie. Pour une symphonie, j'aurais vendu mon frère. Pour une mélodie, j'aurais trahi mon père. Je n'étais que musique, et jusqu'à aujourd'hui, par qui aurais-je pu...
On entend Les Demoiselles de Rochefort, et c'est assez étonnant, parce que c'était Michel Piccoli, d'une part, et Gene Kelly, qui joue le rôle de Andy dans le film, mais qui est doublé par un autre interprète, parce que je crois qu'il était en contrat avec la MGM, on ne pouvait pas entendre sa voix chanter dans autre chose qu'un film MGM. C'est aussi l'une des caractéristiques de la comédie musicale, c'est d'arriver à tricher pour donner l'impression de la spontanéité, de la liberté, de l'improvisation, alors que tout ça est très très préparé.
Et oui, parce qu'il y a une vraie question dans la comédie musicale, c'est quand cesse-t-on de parler pour se mettre à chanter ? Il y a eu des thèses, des émissions consacrées à ce thème. Est-ce que vous avez une théorie générale de ce moment de bascule, NTB ?
J'aime bien dire que une comédie musicale réussie pratique l'art de la transition. Alors, soit cette transition, elle se fait en douceur, c'est-à-dire je suis en train de parler et tout d'un coup, je me mets à chanter, ou je suis en train de marcher et tout d'un coup, on s'aperçoit que je suis en train de danser, ou ça peut être de façon plus brutale. Mary Poppins tape, claque des doigts, et puis tout d'un coup, son dialogue se transforme en chanson. Ou bien, un rideau se lève, et puis des interprètes font leur numéro. Donc voilà, tous les intermédiaires existent entre ces deux positions un peu extrêmes qui nous permettent d'accepter en fait qu'un personnage de cinéma qui jusqu'ici était comme vous et moi dans la vie se mette tout d'un coup
à... comme vous, NTB de moi.
Oui. Mais se mettre, pas du tout comme vous et moi, à chanter et à danser comme Fred Astaire ou Jane Kelly.
Ah oui, alors d'ailleurs, Jane Kelly, il faut dire que sa présence dans Les Demoiselles de Rochefort n'était évidemment pas fortuite. C'était un clin d'œil à une autre comédie musicale qui est peut-être la comédie musicale la plus célèbre de tous les temps, je m'avance.
Chantons sous la pluie, oui. Enfin, c'est la plus célèbre, c'est la plus aimée. C'est celle que préfèrent ceux qui adorent la comédie musicale. C'est la seule qu'aiment ceux qui n'aiment pas la comédie musicale. Donc, ça fait beaucoup de monde.
Good night, Kathy. See you tomorrow.
Good night, Doc. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? This California dew was just a little heavier than usual tonight.
Really? From where I stand, the sun is shining all over the place. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling. And I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the storm.
Je ne sais pas, Debin, s'il faut vraiment dire que c'est Chantons sous la pluie. Peut-être que C'est un peu inutile de rappeler ce qu'est cette comédie musicale. Et malgré tout, vous pouvez peut-être la replacer dans le contexte, vous qui avez donc eu la chance d'organiser cette exposition qu'on peut voir à la Philharmonie de Paris sur les comédies musicales.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que la chanson que chante Gene Kelly est une chanson qui date de 1929 et qui avait été coécrite par le producteur du film Chantons sous la pluie, qui fait un film un peu, on dirait aujourd'hui, film jukebox, à partir de son propre répertoire de chansons. Et donc, c'est une chanson qui est déjà un tube énorme, et qui a traversé toutes les années, qui a été créée pendant la période de la crise économique. C'est-à-dire qu'il fait mauvais dehors, il y a de la tourmente, mais je garde du soleil à l'intérieur de moi, parce que en plus, je suis prêt à l'amour. Puisque c'est aussi de ça que ça parle. Quand on n'est pas dans son état complètement normal, on peut se mettre à chanter comme ça dans la rue, sous la pluie. Et il y a une chose intéressante aussi, c'est que les producteurs du film ont décidé de couper l'introduction de la chanson et remplacer cette introduction par ce petit fredonnement qui permet justement la transition de Gene Kelly qui vient d'embrasser son amoureuse et qui va se mettre à chanter après ce tout dou dou dou. Et ça, c'est voilà, l'assistant du producteur qui s'appelle Roger Edens a imaginer cette transition en douceur qui est aussi permise par la continuité du bruit de la pluie qui accompagne la chanson puis la danse de claquettes de Gene Kelly.
Mais alors, vous dites que finalement, cette chanson, elle est plus ancienne que le film. Et on a aussi l'impression que les chansons des comédies musicales et même les comédies musicales, la plupart de celles auxquelles on songe spontanément, Les Demoiselles de Rochefort, West Side Story, elles ont une manière de ne pas vieillir. Vous comprenez pourquoi ?
Je pense que l'une des forces de la comédie musicale, il y a le mot musical évidemment dedans, c'est d'arriver à faire flèche de tout bois à partir de toutes les traditions préexistantes de la musique. On a parlé tout à l'heure des chants sacrés de la synagogue. Il peut y avoir le folklore américain, il peut y avoir l'opéra, l'opérette. Et évidemment, il y a une forme musicale qui est en train de naître en même temps que la comédie musicale au cinéma, qui est le jazz. Donc, tout ça va se mêler de façon harmonieuse. Et on va aussi recycler des succès anciens, on va en composer des nouveaux qui vont se mêler à la tradition. C'est l'une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, c'est un genre qui ne vieillit pas. C'est aussi le spectacle total.
Alors, c'est un genre également qui procède d'une technique assez compliquée. Voici une archive très rare. Il s'agit d'un dialogue entre Françoise et Catherine d'Orléac, Catherine Deneuve, au sujet des Demoiselles de Rochefort.
C'est ça qui est merveilleux, ça donnait l'impression de facilité, de fraîcheur, de beauté, de sourire, alors qu'on a passé des heures à répéter, à faire les coiffures, les maquillages, enfin régler les lumières, et puis donner cette impression de facilité.
Voilà, enfin, qui vraiment l'impression d'être surnaturelle et divine, alors qu'on est tout simplement
humaine. Ça, c'est la vraie grâce que donne le cinéma, c'est des espèces de choses tout à fait impalpables et surnaturelles. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors qu'au théâtre, malgré tout, c'est plus difficile, parce que dès qu'on voit, on est en contact avec les gens, on sent, on voit les formes, et au cinéma, on peut tricher, on recommence, et on prend plusieurs morceaux jusqu'à ce que ce soit
parfait. Mais c'est pour ça aussi, je crois que si le cinéma reste, et si le cinéma dure, on dit tout le temps que le cinéma va être tué, le cinéma va être démoli, mais si le cinéma reste, et si le cinéma dure, c'est si on continue à faire croire aux gens, justement, que c'est... Ça a l'air d'un miracle, que justement, ce sont des choses... Alors, on a envie d'aller voir un miracle, on a envie d'aller voir quelque chose qui n'arrive pas tous les jours dans la rue. Mais si, évidemment, c'est pour aller voir comme ce qui vous arrive le matin quand vous rencontrez votre concert.
Ma soeur est contre les films réalistes, comme vous pouvez le voir.
Non, je ne suis pas contre les films réalistes. Je suis contre le côté de montrer la vie de... Pas de montrer la vie tous les jours, c'est même pas ça. Mais de faire croire que...
De montrer l'effort.
De faire croire au miracle, c'est ça. Il faut que les choses paraissent belles et qu'on ait envie que les gens aient envie d'aimer, envie de trouver ça merveilleux et non pas envie de voir les choses moches ou le côté un petit peu comme ça.
Delphine, viens voir, ils sont arrivés. Ils s'installent sur la place.
Tu sais, les gosses seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin.
Ben non. Tu crois ?
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux.
Les Demoiselles de Rochefort, une réaction, Emmanuel Guitché.
Oui, la réaction, c'est on pourrait faire cocorico quand même, parce que Jacques Demy, on a beaucoup parlé des comédies musicales américaines, mais Jacques Demy, on parlait tout à l'heure de technique et de difficulté, avec 5 fois moins d'argent que les Américains, à réenchanter le quotidien et en traitant quand même des sujets d'actualité, parce que les parapluies de Cherbourg, ça se passe pendant la guerre d'Algérie. Et puis l'autre chose que je voulais dire par rapport, vous citiez mon livre Simone et Brigitte, donc Simone Signoret et Brigitte Bardot, c'est que vous savez sans doute que Jacques Demy avait envisagé Audrey Hepburn et Brigitte Bardot pour jouer les Demoiselles de Rochefort. Voilà, on a peut-être raté un autre film magnifique. Vous parliez aussi tout à l'heure de tricher. Ce qui a été formidable avec Jacques Demy, c'est qu'il a réussi avec des tas d'acteurs qui n'étaient ni chanteurs ni danseurs à faire croire qu'ils étaient vraiment dans ce monde-là. Sauf Danielle Darrieux qui, elle, chante avec sa vraie voix dans tous les films de Jacques Demy.
Endivine.
Oui, bah, moi ce que je sais, c'est que tous les cinéastes en France, depuis la Nouvelle Vague, et peut-être même avant, ont envie de réaliser des comédies musicales. C'est les producteurs qui ne veulent pas. Et puis, il faut avoir des vedettes à qui il faut apprendre à chanter ou à danser. Et s'ils le savent déjà, il faut leur composer des musiques, des chansons, etc. C'est vrai, Brigitte Bardot était une danseuse.
Et une chanteuse, bien sûr.
Et une chanteuse. Mais surtout, elle avait fait des études de danse Et je sais que, par exemple, elle avait eu un projet de comédie musicale avec Michel Deville,
absolument,
qui n'a jamais pu se concrétiser. Simone Signoret n'était pas spécialement chanteuse ou danseuse, mais quand vous essayez de réfléchir à la plus belle scène de Casque d'Or, c'est quand elle danse avec Serge Reggiani. Donc voilà, c'est quelque chose qui hante le cinéma français.
Les producteurs ne veulent pas faire des comédies musicales parce que ça coûte cher, parce que ça peut faire un flop. Alors on se souvient par exemple du flop des Misérables, c'était en 2012. Il y avait beaucoup de stars, Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, et ça n'a pas du tout marché, Ntebin.
Non, mais enfin, Les Misérables, c'est pas que ça a pas marché, c'était déjà un spectacle mythique sur scène, qui avait été créé pour la France, mais n'a commencé à devenir un spectacle à succès qu'à partir du moment où il s'est exporté à Londres, puis à Broadway. Donc c'est déjà significatif que des Français n'arrivent à réussir dans la comédie musicale qu'en partant à l'étranger. C'est vrai que c'est contraignant de faire une comédie musicale. Il faut que l'image soit soumise à un son préenregistré, une musique, des chansons.
On parlait des cinéastes de la Nouvelle Vague, il y en a un qui a réussi, c'est Alain Resnais, avec on connaît la chanson, et effectivement...
Bah oui, mais il a attendu très longtemps.
Une incursion, il a attendu très longtemps, absolument. Mais ensuite, ça a été un grand succès, comme Woody Allen avec Tout le monde dit I love you, c'était, je crois, à peu près
la même
époque.
Et puis si ça marche, ils essayent d'en faire un autre. Alain Resnais, ensuite, a fait Pas sur la bouche, qui était, pour le coup, une vraie comédie musicale, pas une comédie avec des extraits de chansons.
Et le fait qu'il y ait eu Les Misérables, qu'il y ait également eu d'autres thèmes, parce que on pense que les comédies musicales ne parlent que de thèmes heureux, ça n'est pas en réalité vrai, Ntebin.
Comédie musicale, moi je l'entends d'une façon interprétative, c'est-à-dire que ce sont des acteurs qui jouent la comédie et puis tout d'un coup qui se mettent à chanter et à danser. C'est comme quand on dit que Carmen est un opéra comique. Il n'y a rien de comique dans Carmen. Donc c'est aussi parce que c'est une forme qui musicalement est un peu dépréciée, c'est pas une forme noble. Donc, comédie, ça permet de rendre compte de cet aspect populaire. C'est de la musique populaire. C'est pas de la grande musique.
De toutes sortes de sujets. Jeanne et le garçon formidable parle du sida. Moulin Rouge parle de la prostitution. West Side Story parle de la guerre des gangs. On va écouter Marilyn Monroe.
I'm susceptible to stars in the skies. I'm incurably romantic. If they're told to me all covered with sighs, the wildest of lies seem true. Each time a lovebird sings.
On n'a pas le temps d'entendre Marilyn Monroe parce qu'il y a Clara Le Coq Réal qui arrive. Ah bah voilà, hein, Clara. Et c'est Yves Montand, bien entendu. On va continuer à évoquer ça. Ça permet aussi de parler des Français, effectivement, qui sont partis chanter outre-Atlantique. On va reparler de La La Land, qui est malgré tout le grand succès français exporté, qui a remis en quelque sorte au goût du jour la comédie musicale. Bref, on se retrouve dans quelques instants. Emmanuel Guilcher, vous publiez Simone et Brigitte, deux icônes à la française aux éditions Larousse Ntebin. On vous doit notamment ce catalogue de l'exposition consacrée aux comédies musicales à la Philharmonie de Paris. Il est publié aux éditions de La Martinière.
Les Matins de France Culture, Guillaume Erner.
Qu'est-ce qui t'arrive?
Vous voyez pas que je m'amuse?
Alors viens, ça suffit.
Vous connaissez un pays où les gens ne pensent qu'à danser et à rire?
Je vais t'y amener.
C'est loin.
De l'autre côté de la terre.
Je voudrais ne plus penser à rien.
C'est pour ça que je suis ici, Juliette.
8h23 sur France Culture, on continue à se souder. Au cinéma, en compagnie d'Ntebin, qui est le commissaire de l'exposition Comédie Musicale, et d'Emmanuel Guilcher, qui publie Simone et Brigitte, deux icônes à la française chez Larousse. À propos, Emmanuel Guilcher, on entend quoi ?
Alors là, c'est évidemment Bardot dans Et Dieu créa la femme. Hein. On est en 1956. Elle a déjà une carrière derrière elle. Hein. On croit que c'est son premier film, mais non, elle a déjà fait une quinzaine de films. Et puis là, ça va être l'explosion Bardot qui va rayonner sur l'ensemble de la planète.
D'où la question à laquelle vous avez consacré un livre d'à peu près 300 pages. Pourquoi ?
Pourquoi Bardot s'ignorait ?
Pourquoi cette explosion ?
Pourquoi l'explosion ?
Parce que c'est quasiment une scène qui construit une légende. C'est pas une carrière puisque celle-ci a déjà débuté, mais c'est vraiment un personnage, une silhouette tellement associée à un moment de cinéma.
Oui, parce que ça correspond effectivement à un moment de cette France conservatrice du général de Gaulle, où tout d'un coup débarque cette créature sublime qui sait, on le disait tout à l'heure, chanter, danser, se mouvoir avec une espèce de grâce, d'innocence. Tout est naturel chez Bardot, il n'y a rien de composé. Et évidemment, elle explose avec cette sexualité offerte. Donc ça bouleverse totalement le spectateur d'abord, et puis en fait le cadre de la société de l'époque. Évidemment, le film est assez rejeté hein, au départ.
Rejeté.
Il fait scandale. Oui, Brigitte Bardot, on parle de son mari comme d'un pygmalion pervers. Elle-même est assez considérée comme une assez mauvaise actrice, avec cette voix traînante, chuintante, et puis comme l'incarnation de la pute, quelque part. Hein. On est en pleine guerre d'Algérie, il ne faut pas oublier. Donc ça peut aussi choquer dans cette ambiance-là qu'on soit dans un film qui rayonne dans le soleil de Saint-Tropez. Et puis les Américains vont finalement sauver le mythe. Bardot commence grâce aux Américains qui vont faire du film un des plus grands succès de tous les temps.
Entebbe, un commentaire sur cette scène. Alors, ça n'est pas une comédie musicale. Et tout à l'heure, on a bien défini ce qu'était une comédie musicale et puis un film où on chante, un film où il y a des scènes dansées.
Mais en fait, dans la réplique, Bardot dit exactement ce qu'est une comédie musicale, un pays où on ne rêverait que de danser et de rire. Et elle n'y arrive pas. Et ça va être voilà le désir de comédie musicale. Ça va jusqu'à Björk dans Dancer in the Dark, qui est une histoire épouvantable, qui serait insupportable s'il n'y avait pas ce refuge où Björk dans sa tête se croit dans une comédie musicale. Et pour Bardot, c'est ça, c'est la libération par le corps, par la danse, qui lui permet d'exorciser en quelque sorte ses démons. Puis Kurt Jurgens qui lui promet qu'il l'emmènera dans ce pays, qui est un pays où ils n'arriveront jamais.
Et c'est intéressant ce que vous dites, Emmanuel, le refuge, Dixier. Parce que effectivement, c'est ce qui caractérise Bardot et qu'on a peu vu dans le personnage. C'est-à-dire que c'était pas du tout quelqu'un de futile. C'était quelqu'un d'extraordinairement mélancolique, mais qui avait une mélancolie joyeuse. Et c'est ça qui fait les grandes actrices de comédie musicale. C'est cette capacité, effectivement, à passer du rire aux larmes. Et Bardot, elle voudrait vivre chez Bambi. On n'a pas parlé tout à l'heure des comédies musicales dans l'animation, mais c'est aussi un genre à part entière. Et Bardot, elle aurait effectivement fait une héroïne de comédie musicale magnifique, parce qu'en dehors de ce que vous rappeliez du fait que c'était une danseuse hein, contemporaine de Leslie Caron qui elle a réussi à Hollywood, c'était aussi quelqu'un qui effectivement pouvait tout à fait s'accorder à ces films enchantés, comme disait Jacques Demy.
Des films enchantés, on va écouter la voix d'une autre très grande actrice, cette autre icône, Simone Signoret.
C'est-à-dire que moi il y a beaucoup de choses que j'aurais peut-être eu envie de faire et qu'on ne m'a pas proposé. Hein. Mais dans le tas des choses qu'on m'a proposées, il y a celles que je n'ai pas faites. Je n'ai jamais été quelqu'un qui impose une coiffure ou qui fait que toutes les petites filles s'habillent comme elles. Je veux dire, bon, prenez Bardot, prenons l'exemple, l'archétype. Bon, je n'ai jamais été ça, moi, à aucun des âges de ma vie, même à l'âge où j'aurais pu l'être, je ne l'ai pas été. Parce que ça, c'est autre chose pour moi. C'est un autre travail que je suis incapable de fournir. Et puis parce qu'il m'intéresse, ça m'intéresse pas beaucoup et que c'est pas très rigolo au bout d'un moment de faire toujours la même chose. C'est même le contraire de ce que devraient faire les acteurs, parce que c'est jouer à la marchande ou jouer au papa à la maman ou jouer, c'est justement se déguiser en autre chose chaque fois. Alors on peut, à partir du moment où on ne devient pas cette espèce de poster, c'est beaucoup plus facile.
Vous parliez de la voix Brigitte Bardot, il y a aussi la voix de Simone Signoret. Simone et Brigitte, c'est votre livre avec un jeu de différence et de ressemblance. Alors elle donne elle-même, Simone Signoret, dans cet extrait, les différences. Elle dit « je suis pas Bardot ».
Oui, alors effectivement, il y a une part de condescendance hein, dans la façon dont elle parle de Brigitte Bardot. Alors que, en fin de compte, moi, ce qui m'intéressait, c'est de montrer effectivement qu'au-delà de leurs différences, et on parle pas des différences sur l'échiquier politique, il y avait finalement beaucoup de choses qui les rassemblaient. Alors certes, Simone Signoret a fait une immense carrière et elle a accepté le vieillissement à l'écran alors que Brigitte Bardot se retire des écrans. Mais là où elle est sévère, c'est que Brigitte Bardot était aussi quelqu'un de très naturel. Le côté « je suis coquette, je sers de poster », ça a été un peu malgré elle. C'était aussi une fille assez mec et elle a essayé de se sortir de là où le cinéma l'enfermait. Elle a fait quand même, c'est une actrice de la nouvelle vague, hein. Il y a quand même Le Mépris, il y a quand même Louis Malle, Vie privée, La vérité de Clouseau, qui est évidemment le cinéma classique, mais elle n'est pas restée dans un personnage hein, où on voulait l'enfermer. Donc la façon dont Simone Signoret la voit est un petit peu injuste. Et si on repart dès le départ, effectivement, ce sont deux jeunes filles de la bourgeoisie qui se sont battues pour en sortir grâce à des Pygmalions, toutes les deux. Hein, Yves Allégret pour Simone Signoret et Roger Vadim pour Brigitte Bardot. Voilà, donc il y a beaucoup plus de points communs qu'on voudrait le faire croire, et notamment parce que dans le cinéma des années 50 qui était dominé par les hommes, elles vont imposer toutes les deux des visages de femmes très différentes, très libérées. Signoret était une actrice érotique, hein, on l'oublie, mais on parlait tout à l'heure de Casque d'or. En Angleterre, ces films sont classés X dans les années 50. Hein,
Classés X,
absolument, parce que le cinéma est un cinéma de divertissement, donc dès qu'on entre dans des Dents Vertes ou des films comme Manège, c'est une femme fatale qui est quand même assez audacieuse, et ça ira jusqu'à l'Oscar à Hollywood, qui est aussi un film que les actrices anglaises ne pouvaient pas incarner. Elle incarnait une femme d'âge mûr qui tombe amoureuse d'un jeune homme, cougar avant l'heure.
Entebbe, d'ailleurs, Casque d'or, alors là aussi, ça n'est évidemment pas une comédie musicale, mais il y a...
Loin de là.
ça pourrait en être une, puisqu'il y a une adaptation sur scène de Casque d'or en comédie musicale, et il y avait un projet de remake par Julien Duvivier, mais vous auriez pu aussi prendre une troisième actrice, qui est Jeanne Moreau, qui, à la même époque, est encore un visage un peu différent, mm-hmm. Et c'est intéressant, parce que Louis Malle, lorsqu'il fait son film d'aventure qui s'appelle Viva Maria, il va insérer des scènes de comédie musicale à l'intérieur, où peuvent briller Bardot et Moreau.
Oui, absolument, qui sont toutes les deux des chanteuses, actrices ou des actrices chanteuses, appelons ça comme on veut.
Actrices danseuses aussi.
Et des actrices danseuses, bien sûr.
Parce que les scènes où l'on danse dans le cinéma, alors Simone Signoret dansant, Brigitte Bardot, oh là là, c'est une évidence. Mais ça, cela contribue également beaucoup à la légende, Emmanuel Guitcher.
Ah oui, ça absolument. Enfin, Simone Signoret, si elle n'a pas chanté dans les films, c'est parce qu'elle avait un handicap qui s'appelait Montant. Hein. Quand on vit avec Montant, c'est un peu difficile Oui, parce que c'est un peu difficile d'oser la comparaison. C'est quelqu'un qui prenait des risques calculés, qui avait conscience de l'éventuel ridicule. Bon, quand on vit avec Yves Montand, qui était l'artiste de musical par excellence, c'est assez difficile d'aller mener la compétition sur ce terrain-là. Donc je pense qu'elle elle n'aurait pas osé, même si son dernier film musical, hein, qui est un film pour la télévision, elle joue une patronne de musical et elle pousse la chansonnette à la fin. C'était son rêve absolu hein, de chanter.
C'est bizarre parce qu'on n'imagine pas du tout Simone Signoret avoir peur de quelque chose.
Alors ça, on se trompe totalement. Je pense que c'était quelqu'un qui était habité par la peur, par l'angoisse existentielle, comme tous les grands, hein, comme tous les grands artistes. Et c'est en ça qu'elle est assez comparable à Bardot. C'est une femme forte. C'est une femme qui ne montre aucune de ses fêlures, mais c'est une femme qui, à l'intérieur, est extrêmement sensible. Ça, c'est une évidence.
Entebbe.
Mais c'est ce qui résonne, en fait, dans le public.
Absolument. C'est pour ça qu'elle a été aussi populaire. Qu'on sent qu'effectivement, elle a sublimé toute la difficulté de l'existence à l'écran et dans la vie. Hein. On sait bien qu'elle a été une femme trompée. L'affaire Marilyn, on écoutait tout à l'heure Let's Make Love. Bon, c'est quand même, c'était un titre prémonitoire.
L'affaire Marilyn, une affaire qu'elle ne vivait pas comme ce que les commentaires ont pu laisser croire. Emmanuel Guitcher, c'est important de le dire.
Alors là, elle est. Elle est elle réagit de manière froide et de manière mesurée. Elle récupère un petit peu, voilà, elle s'est sublimée parce qu'elle est trompée par l'actrice la plus enviée au monde, la plus belle du monde. Mais sa blessure personnelle est évidemment, évidemment terrible dans la
mesure où Signoret... Elle dit « je ne lui en voulais pas à cette femme ».
Bien sûr qu'elle ne lui en voulait pas, mais Signoret, ce qui était terrible pour Simone Signoret, c'est que son, quelqu'un qui était extrêmement pudique et son intimité était soudain mise sur la place publique. Ce qui est arrivé à Bardot, sur l'ensemble de son existence, elle l'a vécu, elle, en condensé. Elle était en Italie en tournage à l'époque et bon, les paparazzi, les journaux, même italiens, reprenaient la rumeur de cette idylle dont on sait évidemment que c'était pas une rumeur.
Et Signoret, elle était très peu paparazzée.
Elle était très peu paparazzée parce que, comme elle le dit dans l'extrait que vous avez passé tout à l'heure, c'est vrai qu'elle n'a pas inventé de mode, c'est vrai qu'elle vivait avec Montand, point barre. C'était l'homme de sa vie, il n'y avait pas d'histoire. C'était une femme amoureuse, hein, comme Brigitte Bardot, sauf qu'elle avait un amour unique et que Brigitte Bardot a couru toute son existence après l'amour. Et donc les paparazzi ont couru après...
Bardot courant après l'amour. Débine, un commentaire ?
Non, moi je pense que il y avait dans les meilleurs rôles de Simone Signoret cette capacité à la rêverie.
Absolument.
Que
les metteurs en scène n'ont pas toujours su voir, et notamment ça aurait pu être une grande actrice de comédie parce qu'elle était assez drôle dans la vie. Et d'ailleurs, quand elle était dans son école, elle a fait très peu de temps, comme Bardot d'ailleurs, dans une école où on vous apprend la diction, etc. À cause de son aisément, chuintement, on l'avait classée parmi les fantaisistes.
On écoute Simone Signoret, alors qui n'était vraiment pas fantaisiste dans nos mémoires, et qui conserve à chaque fois une image de femme engagée, avec évidemment le couple qu'elle formait avec Yves Montand, différentes prises de position. On écoute d'ailleurs le discours de Simone Signoret.
Les acteurs italiens sortent de la classe ouvrière, les acteurs français sortent de la bourgeoisie, ça a un peu changé maintenant. Mais par exemple, à part Gabin, on ne peut pas dire que c'est la classe ouvrière, il avait un père qui était comédien. Montand, c'est la classe ouvrière, mais il est italien. Reggiani, c'est pas la classe ouvrière, enfin petit coiffeur immigré, mais il est italien. Les acteurs français sont généralement effectivement des fils de bourgeois.
Acteurs et
les réalisateurs
et
aussi.
Les cinéastes aussi.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Même ceux qui s'engagent le plus dans des choses un peu audacieuses viennent de la bourgeoisie.
Emmanuel.
C'est assez drôle, mais c'est en même temps c'est assez vrai, évidemment. Michel Morgan, Daniel Darieux, Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac. On parlait tout à l'heure de Jeanne
Moreau.
J'ai
posé la question, puisque aujourd'hui, évidemment, cela résonne autrement, le fait que le monde des arts soit connecté ou déconnecté vis-à-vis de la société. Est-ce que les acteurs français sont d'origine plus bourgeoise que les acteurs étrangers d'autres cinémas ?
Je sais pas, ça me paraît les mettre dans des prototypes qui sont pas forcément la réalité. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont enfants d'acteurs aussi. Je pense que c'est des catégorisations qui sont un petit peu vaines et inutiles. On parlait tout à l'heure de Jeanne Moreau, qui elle aussi est une enfant de la bourgeoisie. Si je l'ai pas gardée dans le portrait, évidemment c'est l'autre star internationale de cette époque. C'est parce qu'elle pour le coup, elle a pas rayonné sur la société française dans son engagement. C'est une star qui est finalement restée à l'intérieur de l'écran, à la différence de Bardot et Signoret qui, elle, bon, l'une par son aura, parce qu'elle a bouleversé les mœurs, parce qu'elle a fait bouger les lignes dans la cause animale aussi, et Signoret parce que c'était l'actrice politique de la deuxième partie du XXe siècle. Jeanne Moreau, elle reste quand même dans le cadre du cinéma.
Alors, des comédies musicales engagées, bon, le terme est peut-être un peu compliqué à utiliser. En revanche, il y a des comédies musicales qui évoquent des situations politiques, sociopolitiques. On écoute West Side Story, un extrait.
Once an immigrant, always an immigrant.
Hey, look, in terms of shampoo, she's been brainwashed.
Stop it.
She's given up Puerto Rico and now she's queer for Uncle Sam.
Oh, no, that's not true.
Puerto Rico, my heart's devotion. Let it sink back in the ocean. Always the hurricanes blowing. Always the population growing. money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island Manhattan.
I know you do.
Smoke on your pipe and put let it.
Entebin, un commentaire.
Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que la comédie musicale, même si on n'a pas l'impression qu'elle est ancrée dans la société et la politique de son temps, elle l'est complètement. C'est-à-dire que cette séquence-là, en fait...
West Side Story, je m'excuse de le rappeler.
C'est West Side Story, c'est d'après la tragédie de Shakespeare. Il y a la musique de Leonard Bernstein qui mêle aussi une tradition symphonique, le jazz, ici, hispanique. Donc, vous avez ce melting pot. Et de quoi parle cette séquence et de quoi parle le film? Eh bien, de la guerre des gangs de rue aux États-Unis, des conflits de génération, de l'immigration, puisqu'il s'agit de Portoricains ici, des rapports aussi sociaux de sexe entre les hommes et les femmes. Et tout ça se résout lorsqu'ils peuvent non seulement exprimer en chanson ces conflits, mais ensuite danser ensemble. Et à la fin, c'est la joie de vivre qui termine cette séquence commencée dans le conflit. Donc voilà, sur scène, c'était un petit numéro intimiste entre les trois amis et Maria. Et puis à l'écran, ça devient un énorme ballet chorégraphié par Jerome Robbins.
Et là aussi, c'est incroyable parce qu'on se souvient de toutes les chansons de West Side Story.
Oui. Et ça, c'est la grande capacité de la comédie musicale à fédérer plusieurs industries à la fois, c'est-à-dire pas seulement le cinéma, mais aussi la télévision, la radio, le disque, la partition publiée, ce qui fait que les grands succès de comédie musicale sont aussi des succès populaires dans tous les médias.
Je parle sous le contrôle de Entebin, mais c'est vrai que la comédie musicale américaine, elle raconte l'évolution de l'Amérique aussi. Elle fait pas que raconter l'industrie du spectacle, parce que c'est ça aussi. Elle parle aussi de l'industrie du spectacle souvent. On pourrait citer Air pendant la guerre du Vietnam, où c'est un jeune garçon qui préfère rester dans la communauté hippie que de partir à la guerre.
Le compositeur d'Air est mort cette semaine, c'est la raison pour laquelle on en a diffusé un extrait de Air. On avait diffusé un extrait de Let the Sunshine In, peut-être la chanson la plus connue de cette comédie musicale. En tout cas, on voit qu'il y a évidemment du contexte de la société, de la politique dans les comédies musicales. On parlait tout à l'heure de ce duo Sibod et Brigitte. Brigitte Bardot a pris position socialement et politiquement dans un certain nombre de combats. Alors on peut évidemment se sentir plus ou moins proche de ces différents combats, mais on ne peut pas en tout cas l'accuser de ne pas être une actrice engagée.
Oui, et puis contrairement à la caricature qui est faite ces dernières années, mais qui sont liées évidemment à des dérives sur lesquelles on ne va pas s'étendre, c'est une actrice qui a pris des positions souvent iconoclastes. Hein, pendant la guerre d'Algérie, elle refuse le racket de l'OAS. À l'époque, elle dit « je ne veux pas vivre dans un pays nazi ». Elle va être d'ailleurs encensée par la presse de gauche à l'époque. Hein. Libération l'appelle BBB, bravo Brigitte Bardot. Elle s'occupe de causes. Elle s'est intéressée au Rosenberg, par exemple, de manière assez naïve, hein, parce qu'elle avait 16-17 ans.
Il faut rappeler qui étaient
les époux Rosenberg qui sont accusés d'espionnage au profit des Russes pendant la guerre froide, et que Montand et Signoret vont évidemment défendre, notamment en montant sur scène pour jouer les sorcières de Salem d'Arthur Miller, qui est une adaptation.
Considère à l'époque que c'est une erreur judiciaire.
Absolument. Mais en même temps, bon, il méritait peut-être pas la guillotine, surtout est-elle.
Ça n'en était pas véritablement une, on l'a su. Ensuite, Emmanuel Guilché, toujours au sujet de Brigitte Bardot, ce qu'il y a quand même d'incroyablement mystérieux, vous l'avez évoqué tout à l'heure d'une phrase, c'est les raisons pour lesquelles elle décide d'arrêter sa carrière.
Alors, en fait, je crois que c'était quelqu'un qui était très conscient du fait que la beauté est quelque chose d'éphémère, qu'elle n'avait pas envie de se montrer à l'écran. C'est à l'inverse de Simone Signoret, qui a accepté d'être une femme ordinaire à l'écran, avec les magnifiques rôles de la seconde période. Évidemment, les films adaptés de Simenon, de Pierre Granier-Defer. Elle, Brigitte Bardot, a fait le choix inverse. Mais Bardot n'est pas Garbo, hein, on continue de la voir, etc. Mais elle a décidé de se retirer des écrans, de quitter le cinéma avant qu'il ne la quitte, finalement. Parce qu'elle était consciente que, évidemment, sa plastique, c'était difficile de renoncer à ça pour les cinéastes, hein, plus que pour elle, peut-être que. Et puis, le cinéma l'avait jamais passionnée. Tout ce qu'il y avait autour du cinéma, cette célébrité, l'encombrait finalement. Elle aspirait qu'à une chose, c'est de vivre quasiment dans des dessins animés de son enfance. Hein. Donc, c'est ce à quoi elle a droit aussi, même si son combat journalier pour la cause animale est une grande souffrance. Mais bon, elle se sort par l'action. Comme Simone Signoret s'était sortie par l'action, comme Jane Fonda aujourd'hui, ce sont des actrices qui ont milité tout au long de leur existence, sans doute pour lutter contre une profonde angoisse existentielle. Elles voulaient que leur notoriété serve à quelque chose et elles y sont arrivées chacune dans leur genre. En tout cas, elles resteront sûrement dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire tout court comme des femmes qui ont fait bouger les lignes.
En tout cas, Bardot, ses films n'ont pas vieilli. On les regarde aujourd'hui avec autant de plaisir. Et puis le propre d'un genre comme la comédie musicale, c'est lui aussi à la fois de ne pas vieillir et de pouvoir être réactualisé. On va écouter quand même un extrait de La La Land, qui est tout d'abord un hommage au cinéaste Damien Chazelle, donc un Français qui va exporter comme ça ce genre aux États-Unis, et puis aussi un formidable succès public. Entebbe, on termine ce tour d'horizon des comédies musicales avec La La Land.
Oui, La La Land, qui est un film que Damien Chazelle a eu beaucoup de mal à faire produire, puisqu'il avait fait son film de fin d'études, qui était une petite comédie musicale en noir et blanc, tournée dans les rues. Et puis, personne ne voulait lui produire ce film-là. Il a fallu attendre le succès de son premier film indépendant, Whiplash, pour qu'il puisse convaincre les producteurs d'investir dans une comédie musicale à l'ancienne, qui fait référence non seulement à l'âge d'or du genre à Hollywood, mais aussi au film de Jacques Demy.
Et ce succès était-il prévisible ?
Ce succès était totalement imprévisible, en tout cas à l'échelle qu'il a eue. C'est-à-dire que même les gens qui étaient insensibles à sa musique ou à sa réalisation sont allés le voir. Et du coup, ça a relancé toute une vague de production de films musicaux.
Alors, par exemple,
il y a eu le remake de Une étoile est née, il y a eu Bohemian Rhapsody, il y a le retour de Mary Poppins à Noël.
Aladdin, bientôt Aladdin, c'est un biopic. Bientôt
oui,
Aladdin.
Mais les biopics musicaux sont une forme un peu frontière de la comédie musicale.
Merci Entebbe. Comédie musicale, c'est donc le catalogue de l'exposition dont vous êtes le commissaire à la Philharmonie de Paris et c'est publié aux éditions de La Martinière. Emmanuel Guitché, Simone et Brigitte, deux icônes à la française.